Alors pour commencer, joyeux Noël. Et pour bien finir l'année, je vous propose un podcast avec le CNDC. Alma, Ella et Andrea, trois étudiants qui ont pris le temps de répondre à mes questions. Comment se passent les cours? Quels sont leurs projets? Quelles sont leurs réactions par rapport à la potentielle coupe budgétaire de la région? Toutes les réponses sont dans le podcast. Alors je vous souhaite une agréable écoute. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et votre parcours, avant d'arriver ici au CNDC d'Angers?
Je suis Amélie Coster, je suis arrivée à l'école du CNDC en même temps que les actuels directeurs et directrices Noé Soulier et Marion Colletter, donc en septembre 2020, 2 mois après leur arrivée. Auparavant, j'ai beaucoup travaillé dans la production et la programmation de spectacles, beaucoup en danse, mais pas exclusivement. J'ai aussi programmé des projets de théâtre. J'ai travaillé à la fois dans des institutions comme le Festival d'Avignon ou le Parc de la Villette à Paris, mais aussi en compagnie. Donc ça m'a permis en fait d'avoir une bonne connaissance du terrain professionnel, ce qui m'est très utile dans mes fonctions là, de directrice pédagogique, puisque c'est une école, l'école du CNDC, qui est pas, où il n'y a pas de professeur permanent et où donc on invite des artistes et des chercheurs, chercheuses universitaires pour faire le programme de l'école. Donc cette connaissance de ce qui se passe sur les scènes aujourd'hui m'est évidemment utile pour monter le programme. En revanche, je n'ai pas du tout un profil de danseuse, je ne suis pas danseuse. Et donc l'équipe de l'école est complétée, il y a un coordinateur des activités de l'école qui s'appelle Christian Chérouze et il y a un conseiller pédagogique qui lui est danseur, Marc Lorimer, et qui est là, pas à plein temps, mais très régulièrement, et qui suit les étudiantes et étudiants dans leurs apprentissages, notamment techniques.
Ok. Quelles sont vos missions en tant que directrice?
Alors, donc, la première mission, c'est l'établissement, en collaboration avec Noé, Marion et Marc, de ce programme pédagogique. Donc, l'objectif, c'est de monter un programme qui ne soit pas juste une addition de masterclass et de conférences, mais qui ait du sens et qui évolue au fil des 3 ans du cursus. Donc ça, c'est le gros de mon travail. Oui, la question du planning est une question importante parce que, bien sûr, les gens qu'on sollicite pour venir intervenir à l'école ont aussi plein d'autres activités, soit en tant qu'artiste, interprète, chorégraphe, soit en tant que chercheur, chercheuse universitaire. Donc, il faut aussi arriver à faire le puzzle du programme de l'année. Et voilà, la première fonction, c'est celle-là. Et c'est aussi, du coup, en fait, faire le lien entre les différentes sessions et donc beaucoup échanger avec les différents intervenants et intervenantes. Il y en a quand même autour d'une trentaine par an. Certaines et certains vont revenir plusieurs fois au fil du cursus. Mmh. Et puis d'autres vont venir une semaine en première année et puis ne retrouveront pas la promo et reviendront peut-être avec la promo suivante. Ça dépend de 1000 paramètres, à vrai dire. Mais donc il y a aussi, et là on voit au bout de 4 ans qu'il y a quand même une communauté d'intervenants de l'école qui s'est formé. On fait des réunions semestrielles avec les intervenants et intervenantes du semestre passé et du semestre à venir pour qu'on puisse échanger collectivement et travailler au maximum ce lien d'un apprentissage à un autre et d'une session à une autre pour que ça fasse sens et que ça produise des effets pour les étudiantes et étudiants.
Donc une promo, ça reste 3 ans, c'est ça, si je me
trompe? Voilà, c'est un cursus de 3 ans avec une promotion de 20 étudiantes et étudiants, très international. Hein, cette année, il y a une promo qui est arrivée en septembre et il y a 10 nationalités, y compris les Français. Il y a une majorité de Français des Français, mais quand même 10 nationalités au total. Et ça, c'est une des grandes richesses aussi de l'école, parce qu'il y a beaucoup de parcours très différents dans les étudiantes et étudiants. Et puis, c'est pareil du côté des intervenantes et intervenants. C'est aussi assez international. Et donc, ça permet que se croisent ici plein de pratiques qui sont à l'image aussi de la danse contemporaine, qui est très multiple. En fait, il y a autant de danse contemporaine que de chorégraphes contemporains, d'une certaine manière. Donc c'est évidemment impossible d'être exhaustif, important d'être représentatif d'un certain nombre de courants, d'essayer aussi d'ouvrir et d'aller au-delà du champ purement occidental qui reste évidemment notre base et ce qu'on connaît le mieux, mais néanmoins on fait attention aussi à se nourrir de ce qui peut se passer ailleurs. Donc en fait le gros du travail quand je te parle du programme, c'est aussi de faire des choix parce qu'on peut pas tout faire, même en 3 ans. Mais voilà, c'est une des choses importantes. On a aussi dans le programme, et ça fait partie de mon travail, des projets évidemment de création, et du coup de présentation de ces projets au public. On a la grande chance d'être ici dans un centre chorégraphique avec des lieux de représentation, donc bien sûr les étudiants peuvent se produire dans le programme de la saison. Et ça se fait de plus en plus au fil du cursus, mais il y a aussi des dates ailleurs, parce que c'est important qu'ils aillent aussi danser ailleurs. Ils feront là par exemple en avril une présentation de projet de cette première année à la scène nationale d'Orléans, en collaboration avec le centre chorégraphique d'Orléans. Voilà, par exemple, il y en aura d'autres dans les années à venir.
Et au bout de ces 3 ans, si vous voulez que les étudiants retiennent une chose, ça serait quoi ?
Bah, je crois que le plus important, c'est que ça leur soit propre, en fait, ce qu'ils ont à retenir, c'est-à-dire qu'ils fassent chacun et chacune leur chemin. Ce qu'on espère, c'est que ce n'est pas une école qui formate, mais que c'est au contraire une école qui ouvre des possibilités, justement du fait de cette multiplicité des approches et des esthétiques en danse contemporaine. Et puis pour nous, c'est vraiment important que ce soit un cursus qui forme des artistes chorégraphiques, c'est-à-dire autant des gens qui ont envie de devenir danseurs et danseuses interprètes, que des gens qui veulent être chorégraphes. Bien souvent, ils feront les deux. Et par rapport aux 6 écoles supérieures de danse qui existent en France aujourd'hui, donc il y a le Conservatoire National de Lyon, le Conservatoire National de Paris, l'École de l'Opéra de Paris pour le classique, l'École de Cannes qui a un cursus classique et un cursus contemporain, l'École de Boulogne en jazz, et puis le CNDC d'Angers. Chaque école est tant mieux à ses particularités. Et une des particularités un peu historiques du CNDC, c'est l'approche de l'expérimentation. Et de la création, à la fois dans une pratique d'interprète et dans une pratique de chorégraphe. C'est partagé par toutes les écoles, mais c'est peut-être une des caractéristiques du CNDC, avec cette particularité de ne pas avoir de professeur permanent et d'être au sein d'un centre chorégraphique.
Ouais. Quelle est votre définition de la culture ?
Non, c'est une question vaste. Il y a sans doute plein de définitions de la culture, mais je pense que c'est en tout cas avant tout un tissage. Et de pratique, et de référence, et de parcours, et que c'est ça la richesse. Donc après, il y a évidemment des cultures qui se font à un endroit, donc il y a un ancrage aussi probablement local, mais qui est sans arrêt nourri d'apports extérieurs, et qui aussi va se promener ailleurs. Donc j'ai l'impression, en tout cas, c'est une question assez d'actualité en ce moment sur les territoires des Pays de la Loire, par exemple, puisque il y a cette remise en cause du soutien de la région à la culture, mais au sens large, justement. C'est-à-dire la culture, ce n'est pas exclusivement l'artistique, c'est aussi toutes les actions que mènent les associations sportives ou les associations dans le champ social. Tout ça fabrique quelque chose de commun qui, je suppose, produit une culture. Et qui nous semble à nous, acteurs, actrices, et j'espère une grande majorité de citoyens et citoyennes, hyper fondamentale comme vecteur de cohésion, en fait. Donc, bon, voilà, j'imagine qu'il y a des définitions beaucoup plus scientifiques de la culture, mais comme ça, à chaud, c'est ce qui me viendrait en priorité.
Justement, c'était ma question, mais en 2025, il se pourrait qu'il y ait une baisse de 73% du budget culturel de la région Pays de la Loire. Quelle est votre réaction par rapport à ça ?
Alors, en ce qui concerne le seul CNDC, c'est pas 73%, c'est 100%. Et c'est pas encore acté à l'heure où on se parle, puisque le budget de la région, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans les annonces de la présidente de région, n'a pas encore été voté. Donc, le principe des instances, c'est qu'il y a un débat en commission, puis un vote. La brutalité de ces décisions et la compréhension que ça suscite en fait de part et d'autre fait que nous, notre point de vue, c'est d'essayer de, puisqu'il n'y a plus d'urgence en fait à voter le budget, puisque de toute façon le budget national n'a pas été voté du fait de la motion de censure, l'idée pour nous, ce serait qu'on se redonne collectivement du temps et surtout l'espace du débat pour arriver à réfléchir mieux à tout ça. Il ne s'agit pas de camper de part et d'autre sur des acquis, il s'agit d'essayer d'être justement le plus juste possible pour le plus grand nombre. Donc effectivement, la méthode de toute façon est me semble-t-il, très brutale et pas très propice au dialogue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et sur le fond, il faut discuter. Je pense qu'il y a sans doute des solutions à trouver en y passant un peu plus de temps en commun.
Ok. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire ?
Moi, je pense que le dernier mot, c'est surtout les étudiantes et étudiants qui doivent l'avoir, puisqu'ils sont l'avenir de la danse contemporaine, une partie en tout cas de cet avenir-là. Donc, je pense que ce sera eux, j'espère, qui auront peut-être pas le dernier, mais en tout cas un des mots à venir.
Ok, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci.
Je m'appelle Andrea et j'ai 19 ans.
Je m'appelle Alma, j'ai 21 ans.
Et moi, je m'appelle Ella et j'ai 20 ans.
Si vous étiez un ou une artiste, une citation ou une chanson, vous seriez quoi?
Non, mais je me disais que c'est pas pareil d'aimer et de vouloir être. Bon, moi, j'aime bien le proverbe « la contrainte amène la créativité ». J'aime bien.
Ok, très bien. Maintenant, un ou une artiste et une chanson.
Oh, les trois.
Oui, après, vous êtes trois, donc soit tu peux répondre aux trois, soit vous partagez les réponses, comme vous voulez. Okay. Si vous êtes plus ou moins inspiré.
Il y a une artiste qui s'appelle Pikigou, qui fait des musiques. Et, okay. Et voilà, pour moi c'est ça.
Okay. Il nous manque une chanson, c'est à toi d'y répondre.
Donc il faut que je trouve une chanson. Je sais pas, il y a cet album que j'aime beaucoup de Jeff Buckley, ouais. Grace, et je sais pas, peut-être Grace de Jeff Buckley, cette chanson-là.
Ok, très bien. Concrètement, être étudiant au CNDC, ça ressemble à quoi? Vous pouvez me raconter votre journée type, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous apprenez?
Alors, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de journée type. La seule chose qui est régulière, c'est nos horaires. Okay. On fait du 9h à 18h tous les jours. Et on commence par le yoga le matin, ouais. Ça, c'est régulier. Et pilates le vendredi. Et sinon, après...
À quoi ça sert le yoga et le pilates?
Ça permet de nous mettre un peu en corps le matin. On fait une heure de chaque et ça permet d'avoir une pratique un peu régulière quand même pour le corps. Okay. D'avoir un peu des repères, une pratique un peu constante. Comme ça, c'est quand même pas mal. Et après, en fait, on change tout le temps d'intervenant. Donc, à chaque fois, c'est des sessions... Moi, j'ai l'impression d'entamer vraiment une aventure à chaque fois. On rentre dans un truc différent tout le temps. Okay.
Non, mais c'est ça. Il y a vraiment pas de journée type, quoi. Constamment nouveau. C'est des sessions qui durent d'une semaine à un mois max, je crois qu'on a eu.
Et ça change tout le temps. Parfois, on a des semaines intenses, comme la semaine dernière. Et parfois, on a plus de théorique. Mmh. Du coup, c'est léger pour le corps.
Après, globalement, je dirais que c'est toujours intense, mais que ça l'est soit pour le corps, soit pour l'esprit, soit pour les émotions.
Et ça, du coup, comment le fait que ça soit intense, comment vous le gérez? Est-ce que vous avez des routines particulières, que ça soit individuel ou...
Moi, je dors beaucoup plus qu'avant la formation.
Ok.
Oui, il y a le week-end. Moi, j'en profite pour dormir, en fait.
Oui, c'est ça.
Ouais, le week-end, les gens, ils sortent, ils s'amusent. Moi, je dors.
Moi, je sais que c'est plutôt par phase. Enfin, en général, je m'écoute pas toujours forcément. Du coup, j'ai des périodes où c'est un peu décousu et je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et après, j'ai des phases de, je sais pas... quelques jours à 2-3 semaines où vraiment je suis obligée de me concentrer sur moi et d'être vraiment dans une phase de prendre soin de mon corps, de dormir beaucoup, de faire attention à ce que je mange, tout ça pour réparer un peu.
Ouais, par rapport à l'intensité, un truc dont je suis en train de me rendre compte pour moi, parce que ça fait pas longtemps qu'on a débuté la formation, c'est le quatrième mois là, c'est que c'est hyper lié, on a des travaux personnels. On appelle ça des cartes blanches, c'est-à-dire c'est des projets libres qu'on va monter nous-mêmes, seuls ou à plusieurs.
Okay.
Donc il y en a trois par an, une par trimestre. Et moi, l'intensité était hyper liée à ça. On a eu une semaine de vacances juste avant les présentations, c'était pas du tout des vacances pour moi. Et par contre, après les présentations, ouais, c'était trop cool, quoi. Moi, j'ai passé une semaine très tranquille, du coup, okay. Alors que c'était les mêmes horaires.
D'accord.
Parce qu'on doit, forcément, du coup, c'est du travail personnel qui se fait. On a la possibilité de réserver des studios ici, ce qui est carrément top, parce qu'après, c'est payant dans la vie pour travailler sur nos projets perso, quoi.
Donc ça, c'est en dehors des heures de cours. Ouais, ok. Mais ça compte quand même dans votre formation.
C'est ça, c'est des présentations qui ne sont pas toujours obligatoires. Ouais, voilà, c'est un peu un devoir.
Comment vous, individuellement, vous êtes retrouvé ici au CNDC? Pourquoi avoir voulu rejoindre cette école? J'aime bien à chaque fois le petit moment de latence. Qui va répondre en premier?
Moi, personnellement, c'est... J'avais des amis qui sont venus au CNTC ici et qui ont suivi la formation. Et après, ils m'ont partagé leurs expériences et tout. Et c'est une école renommée.
Oui.
Et c'est bien de tenter, dans la danse contemporaine, c'est bien de tenter plusieurs auditions, plusieurs choses, du coup, voilà.
Moi, j'en suis venue à arriver là. En fait, j'ai fait 2 ans de prépa à Clermont-Ferrand, en conservatoire. Et là-bas, presque tous mes profs de contemporain ont été formés ici au CNDC. Donc, j'avais pas mal d'infos, en fait, sur... Et j'étais assez confiante que c'était une formation vraiment de qualité, du coup. Après, quand j'ai passé mes auditions, j'en ai passé vraiment beaucoup et j'étais pas forcément particulièrement... j'avais pas forcément visé de venir au CNDC. C'était dans mes premiers choix, c'était pas forcément le plus évident. Et en fait, après, c'est en passant l'audition, je pense aussi que je me suis rendu compte que c'est une formation qui pourrait vraiment me plaire. Et c'est l'audition qui a marché, donc voilà.
Ok.
Moi, par contre, c'était assez une école... c'était vraiment l'école que je voulais faire par rapport à d'autres. Parce que, comme l'a dit Alma, moi, j'avais envie de faire une école plutôt en France. C'est connu que quand tu fais une école, tu vas rencontrer des gens, que tu vas te faire un réseau. Et moi, j'avais plutôt envie de travailler en France. Et c'est l'une des meilleures écoles en France, donc... pour ça. Et ensuite, le CNDC, en tout cas, c'est assez changeant puisque la direction de l'école est faite par la direction du chorégraphe qui est en résidence. Et ça change tous les... c'est par mandat, en fait. Mais traditionnellement, le CNDC, c'est une école qui est un peu plus penchée vers la chorégraphie, en tout cas que les autres grandes écoles en France qui sont les conservatoires, les CNSM. Et moi, c'est quelque chose qui, je sais, m'a beaucoup attiré.
Ok. Donc, pour rentrer en fait ici, il y a des auditions à passer, c'est ça?
Oui.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se passe?
Si je peux juste rajouter un truc sur la question d'avant.
Ouais.
Moi, à la base, je voulais plus partir sur une école un peu internationale, en fait. C'était vraiment une envie que j'avais. Et du coup, je visais des écoles en Europe, un peu ailleurs, en Autriche, Belgique, tout ça. Et en fait, j'étais super agréablement surprise en arrivant ici. Le côté international est quand même extrêmement présent. Enfin, on a plus de 10 nationalités dans la classe. Et les professeurs aussi viennent de partout. Donc c'est... Enfin non, vraiment, je suis trop heureuse d'être là. J'avais pas imaginé que ça pouvait être, à ce point-là, ouvert sur autant de cultures et de pluralité. C'est vraiment chouette.
Du coup, oui, la question précédente, c'était comment, pour rentrer ici, il y a des auditions. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se passe concrètement?
Il y a des auditions en ligne et il y a des auditions présentielles.
Ok.
Moi, personnellement, j'ai passé l'audition en ligne parce que je ne pouvais pas venir ici. Mais on n'a pas eu la même chose à l'audition, en fait. Ça diffère si tu es en ligne. Le concept de l'audition, ce n'est pas le même.
Ce n'est pas le même, ok.
Ouais.
Et ça se passe comment concrètement, que ce soit en ligne ou en présentiel?
Ils ont plus de cours. Ils ont le théâtre, la musique et tout. Nous, en ligne, on avait juste 1h30 de cours avec Noé Soulier et un interview, c'est tout.
Ok, en fait, c'est 2 cours, donc vous participez aux cours, et après aussi, vous êtes pris si vous êtes assez bon, c'est ça un peu le...
Après, peut-être déjà, il y a 2 tours, je crois que c'est tout, hein. Il y a déjà 2 tours. Vous avez un premier tour?
Oui, 2 tours, oui.
C'est du coup, il y a un premier tour qui est sur dossier, où on envoie notre dossier avec CV, lettre de motivation, une vidéo de danse de 1 minute et aussi une dissertation avec un sujet.
Vidéo de danse qui, je crois, devait être une composition personnelle. Mm-hmm. Et il y avait une dissertation sur un sujet. Et il y avait une dissertation sur un sujet de danse aussi à envoyer.
Ok, ouais. Déjà pour être pris au premier tour, il faut faire pas mal de choses. Et au deuxième tour.
Il y avait plus, à peu près 600 candidats.
Ok. Et vous êtes combien ?
Et il y a 20 places.
20. Ouais. Vous êtes 20 sur 600.
Ouais.
Et bah bravo. Et le deuxième tour, ça se passe comment ?
Ouais, le deuxième tour, c'était quelque chose. Hein. C'est deux jours au CNDC où tu passes plein d'épreuves en fait devant un jury. Enfin, pour l'audition, je parle de l'audition présentielle.
Okay.
Gros jury, effectivement. Il y a combien de personnes dans le jury ?
Une dizaine
de personnes.
Donc, c'est assez impressionnant. Non ?
Voilà. Ouais, c'est, ouais, carrément, ouais.
Ouais.
Le jury, d'ailleurs, qu'on retrouve, c'est des profs qu'on a maintenant. Okay. Donc, c'est marrant. Et il y avait quoi ? Il y avait une épreuve de théâtre.
Il y avait aussi un cours de danse contemporaine, un cours de danse classique. Un temps de répertoire, donc de transmission de morceaux de pièces de Noé Soulier, en l'occurrence. Là. Et puis, il y avait encore une présentation d'un autre solo, du coup, de 1 minute, okay. Avec aussi retour entre les élèves devant le jury.
Ok.
Pour développer sur cette épreuve, c'est ça, on devait préparer un solo d'une minute, une minute, donc c'est très, 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 très court,
en silence.
Mmh. Et on devait commenter le solo de quelqu'un. On était attribué, il y avait une liste.
Okay.
On devait commenter pendant 1 minute le solo de quelqu'un. Et il y avait aussi une épreuve de musique. De musique, il ne fallait pas faire de la musique, mais c'était du commentaire musical, en gros, une discussion ouverte.
Une question assez, peut-être un peu trop générale, mais finalement, pourquoi la danse ? Qu'est-ce que vous aimez dans cette activité ?
Moi, j'ai commencé la danse très petite, vers 4 ans. Et ça a toujours été une passion, mais qui est restée plus au statut de loisir. Ouais. Je faisais un cours par semaine, deux maximum. Et c'est pendant le lycée, quand je me dirigeais plus vers les arts plastiques, que je me suis rendu compte que en fait, c'était trop important dans ma vie et que je voulais en faire mon métier. Je pense que c'est plus la raison... Comment expliquer ? Moi, je pense que c'est plus que c'est le moyen le plus accessible que j'avais pour vivre plus dans mon corps,
okay.
pour vivre une vie un peu moins cérébrale, parce que je réfléchis beaucoup au quotidien et c'est un peu envahissant. Et du coup, c'est vraiment ce qui me permet de plutôt être dans mes sensations et d'être plus présente dans la vie en général.
Okay.
Et c'est un vecteur d'émotion très fort aussi pour moi, donc c'est des choses... C'est un monde vraiment très très riche et enfin une fois qu'on a plongé dedans, j'ai l'impression c'est fini, on est perdu là. On peut plus sortir quoi.
OK. Super.
Moi aussi j'ai commencé la danse très petite. J'ai commencé à l'âge de 3 ans. J'ai fait de la danse classique et après vu les études et tout, j'ai dû couper la danse. Mais je savais que je pouvais pas en fait arrêter. Du coup, j'ai fait 2 ans sans la danse, j'ai coupé. Après, je suis revenue, mais j'ai pas fait de la danse classique. Je suis revenue dans la danse contemporaine. Je trouvais que la danse contemporaine était plus libre que la danse classique en fait. Il n'y avait pas vraiment des choses strictes. Des choses vraiment cadrées. Tu peux être toi, en fait.
Ok.
Ouais. Et c'est ça que j'ai aimé dans la danse. Et j'ai su que je ne pouvais pas, en fait, quitter la danse. J'ai su ça quand j'ai quitté. Les deux ans que je fais sans la danse, j'ai su que je ne pouvais pas, en fait. Non. C'est pas possible pour moi.
Pourquoi la danse ? Ouais, c'est une question qui est bien, bien large. Pour la danse en général, moi j'adore danser, c'est hyper constructif. Non mais d'un point de vue, très simplement, c'est quelque chose d'un point de vue physique, c'est très satisfaisant, c'est quelque chose qui est très plaisant à faire. Je pense comme beaucoup d'activités artistiques, au sens, il y a un côté qui est très loisir pour moi. Et ensuite, moi, je sais que je me suis pris de passion, enfin, je suis très intéressé par la danse contemporaine spécifiquement, au sens où c'est un champ qui est ultra, ultra florissant et que tu crois toujours avoir tout vu. Et en fait, tous les jours, il y a des nouveaux chorégraphes qui sortent des trucs qui sont vraiment bien, en fait, mais auxquels tu n'aurais jamais pensé. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui m'attire énormément dans la danse contemporaine.
Ok. Donc, vous avez déjà un peu commencé à répondre à ma prochaine question, mais est-ce que la danse vous libère de quelque chose? Est-ce que c'est un échappatoire?
J'emploierai pas le mot échappatoire, mais plus ça change ta façon de percevoir le monde, en fait. Parce que du coup, moi, ça m'a amené dans des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus d'être dans les sensations, beaucoup plus être dans l'écoute de soi, des autres. C'est juste une façon de faire les connexions d'interagir, de voir les choses qui est vraiment différente. Et en vrai, c'est aussi un peu un exutoire. Enfin, je sais pas, c'est aussi une façon pour beaucoup de gens, je pense, d'exprimer juste simplement plein de choses. Donc pas forcément d'y échapper, mais c'est un endroit où les mettre, quoi. Quand on a... Ouais. Dans la société, il n'y a pas forcément de place pour tout un tas de choses, des émotions, des trucs très personnels ou quoi. Là, j'ai l'impression que c'est un endroit où c'est légitime de poser ça, quoi.
Ouais, parfois, je sens que mon cerveau se met en mode off, en fait. Je suis plus concentrée sur ce que je dois faire en danse que de penser ailleurs ou voilà.
Ok.
Oui, t'as raison. Et là, je trouve par rapport à la, c'est quelque chose qui est très libre et on peut faire plein de choses. Et en ce sens-là, c'est un peu un échappatoire. Moi, je sais que j'ai la place ici de faire plein de choses. Je ne sais pas où je ferais ça autre part, mais je pense que je ne le ferais pas si je n'avais pas la danse.
Est-ce que le monde extérieur, ou bien au contraire tout ce qui se passe en vous, nos émotions, nos états d'âme, sont à prendre en compte quand on entame une démarche artistique?
Je dirais oui, l'un et l'autre, et les deux, et que donc ça dépend. En tout cas, c'est la démarche artistique de beaucoup de gens, déjà de partir d'événements extérieurs. Je dirais... Est-ce qu'il y en a un plus que l'autre? Est-ce qu'on part plus souvent de l'intérieur ou plus souvent de l'extérieur? Je crois pas, non. Il y a plein de démarches artistiques qui visent à s'inspirer, qui visent à reproduire, à partir de choses qui viennent de l'extérieur, mais il y en a aussi énormément qui visent à le faire avec des choses intérieures, donc avec des sensations, des émotions. C'est des sujets qui me semblent assez communs.
Ok. Mais vous, personnellement, peut-être que vous n'êtes pas encore à ce stade-là, mais quand vous allez entamer une démarche artistique, est-ce que vous allez puiser ce qu'il y a en vous pour créer quelque chose, vraiment, ou est-ce que vous faites totalement abstraction de ça et vous concentrez sur votre idée sans prendre en compte tout ce qui nous entoure, finalement?
Moi, j'ai l'impression que, de façon générale, ma pratique est très liée à ma vie personnelle, à ma vie, à comment je vis les choses dans le monde en général. Et du coup, c'est souvent une source d'inspiration où ça se reflète souvent, même si j'essaye pas forcément de le faire, au final, ça ressort d'une façon ou d'une autre. Et je pense que dans l'autre sens, ça marche aussi, que la danse fait ressortir des trucs de nous et du monde et nous fait grandir un peu d'une certaine manière aussi. Enfin, je pense que d'une certaine manière, vouloir être danseur ou artiste, il y a un truc un peu de... Au bout d'un certain moment, en tout cas, à un certain moment du parcours où tu finis forcément par être confronté à des choses. J'ai l'impression qu'en fait, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais qu'il y a un peu ce truc où pour pouvoir continuer à avancer dans ton parcours en tant qu'artiste, t'es forcément confronté à des issues qui se posent à toi en tant qu'humain et en tant que personne. Et que tu dois avancer sur les deux plans en parallèle, en fait.
Ouais, non, c'est intéressant. De manière consciente, pas forcément pour moi. Non, je dirais pas forcément, pas intuitivement en tout cas. Mais de manière inconsciente, c'est évident, ouais. Ça me paraît impossible de faire sans. Parce qu'encore une fois, ça peut être assez libre. On peut pas, on part, je trouve qu'on part souvent assez loin. Et que dans cette mesure, enfin dans les cas où on n'a pas trop de cadre, ce qui est assez régulier, bah tout ce que du coup, tu es très influençable par ce que tu ressens ou ce que tu vis en ce moment, quoi.
D'hypothèse comme ça, mais c'est vrai que juste sur des choses basiques, j'ai l'impression d'observer que, je sais pas, par exemple, des trucs tout bêtes, mais ça change notre façon, ça nous pose des questions sur notre rapport au corps, sur notre rapport aux autres, parce qu'on, pour des choses, parce qu'on est amené à être en contact de façon qu'on n'est pas habitué à l'être dans la société en général. Ouais, je sais pas, on est amené à parler de choses dont on ne parle jamais autrement. Ou c'est aussi qu'est-ce que c'est d'être vu, de se mettre devant des gens, d'être regardé ou de porter un regard sur des choses que d'autres peuvent faire.
Donc j'imagine qu'il n'y a pas que la danse qui est étudiée ici. Qu'est-ce qu'il y a autour qui est important à savoir?
On va parler de ce qu'on a fait dans les quelques mois, mais encore une fois, vu que c'est un planning qui est tout le temps changeant, je pense qu'on va faire beaucoup de choses dont on ne peut pas encore parler maintenant. Mais on a fait de l'anatomie, on a fait pas
Anatomie.
mal d'anatomie.
Pour mieux comprendre le fonctionnement du corps, c'est
Et
ça.
c'est vachement utile, franchement.
On a fait aussi analyse d'œuvre.
On a fait un peu de musique, enfin en tout cas culture musicale, je ne sais pas comment appeler ça autrement.
On va avoir des spectacles avec le programme de danse et de théâtre qui se passe au quai.
L'histoire de la danse. Après, le seul truc qu'on a qui est vraiment pas en rapport avec notre pratique, c'est les cours d'anglais, je pense, ou les cours de français pour certains. Mais
On a aussi fait philosophie de la danse.
Philosophie de la danse,
Oui.
c'est-à-dire, je ne connais pas du tout.
Ah, c'était moins saugrenu que le titre le fait paraître, mais
Oui.
c'était manier des concepts de danse, c'était de la danse théorique en fait.
Okay. Une fois que vous allez sortir de l'école, donc c'est pas tout de suite, mais quels sont vos rêves? Enfin, quelle est la suite pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? C'est une question que j'aime pas répondre, mais j'adore la poser.
Oui, je crois que c'est un peu flou pour les danseurs parce que c'est pas comme des métiers où après ou après que tu finis tes études, tu pars chercher un boulot. C'est pas comme ça, c'est vraiment flou. Tu sais pas si tu entres dans une compagnie ou si toi tu crées ta propre compagnie ou si tu fais des projets en freelance. Tu sais pas en fait.
Moi, je pense, j'ai un peu plein d'envies en même temps. J'ai un peu envie d'être dans des projets d'autres personnes, d'être en compagnie, de peut-être créer des projets. Mais pour l'instant, je sais pas encore exactement. Et ça fait un peu 3 ans que je passe des auditions. Donc j'avoue que là, avoir 3 ans où je sais où je suis et où je peux juste me projeter sur les études, ça me fait du bien et j'essaye de profiter un peu de ça aussi.
Il y a des poursuites d'études possibles aussi. Il y a deux masters, en tout cas reconnus par l'État en France, qui sont celui du CNSM et celui qui est à Montpellier. C'est à Montpellier exerce, c'est ça?
Oui, c'est
Ouais.
ça,
Et sinon, voilà, en termes de possibilités, c'est tout ce qui va du spectre de l'interprète total et fidèle dans une compagnie à un chorégraphe ou de se lancer complètement dans un projet. Mais après, en fait, il y a plein de degrés qui sont un peu entre ça. Parce que la limite, aujourd'hui, il y a beaucoup de danseurs qui chorégraphient. Et pour être chorégraphe, il faut danser. Enfin, c'est mieux, en tout cas, c'est mieux. Non. Et pour répondre personnellement, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Moi aussi, j'ai envie d'expérimenter plusieurs choses, je pense. Et avoir aussi après ce qu'on aura expérimenté dans l'école, qui veut peut-être changer nos envies ou en remplir certaines.
Oui, c'est sûr.
Personnellement, je crois que après de CNDC, soit je fais un master en danse, et soit j'intègre une compagnie pour. En fait, c'est pas pareil quand tu t'étudies de la danse et quand tu es dans une compagnie et que tu pratiques ça et de temps de la création et tout ça. C'est pas pareil en fait.
Ouais, voilà. La question que je pose à tous mes invités, d'une manière individuelle, que vous apporte la culture, l'art ?
C'est pas une réponse d'une profondeur sans fond, mais ça me divertit grandement. Mais pas que.
C'est-à-dire ?
Je vais répondre.
Je reprends, je ne sais pas si vous avez vu, mais la ministre de la Culture va supprimer 70% d'aide à la culture. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous ? Parce que vous êtes indirectement, même pas, vous êtes directement impacté, en fait.
Alors, je vais être très négatif là aussi, mais c'est une question que je me pose souvent, qui n'est pas si évidente, qui n'est pas évidente pour cette ministre d'ailleurs. Mais c'est pas évident parce qu'il faut, et on va répondre pour soi-même, mais en tant qu'artiste, on a souvent à spéculer sur ce que ça apporte aux gens, et je trouve ça assez difficile de spéculer là-dessus, puisque moi, des fois, je me demande si ça apporte tant, et si on n'est pas dans notre monde à faire nos trucs. Moi, ça m'intéresse énormément, enfin, j'ai énormément de plaisir à évoluer là-dedans, dans la culture. J'y trouve vraiment un intérêt profond. Maintenant, est-ce que c'est pareil pour le public ? C'est une question que je me pose souvent. Non, mais par rapport à la question de l'échappatoire, en tant que spectateur, l'art est un très bel échappatoire, je trouve. Je trouve que ça permet vraiment de... C'est pas que penser à autre chose, parce qu'on peut penser à plein de choses, mais ça fait du bien, quoi. Consommer, c'est pas mon terme, mais consommer de l'art, je trouve que ça fait beaucoup de bien.
Plus qu'un échappatoire, moi je trouve qu'il y a un peu ce côté de rendre visible d'autres possibles, quoi. De se dire, c'est un peu de dire aux gens, ouais, il y a le monde dans lequel on vit qui est super et tout. Bon, super, ça dépend, ça dépend ce qu'on voit, voilà. Mais de se dire, ok, on peut créer le monde dans lequel on vit, en fait. Il y a un peu d'autres possibilités. Et c'est pas parce qu'on nous y a pas fait penser que ça fait pas partie des choses que je sais pas que... Enfin, ouais, il y a un peu ce truc où c'est pas parce que ça fait pas partie de l'habituel et du commun et de ce qui est d'usage qu'on peut pas le faire. Enfin, je sais pas, l'art pour moi c'est... Bah, on parlait l'autre fois de Duchamp qui a pris un urinoir et qui l'a signé et qui en a fait une œuvre d'art. Pour beaucoup de gens, c'est révoltant. C'est un peu... il se fout de notre gueule. Enfin, c'est pas une œuvre d'art, etc. Mais juste le concept en lui-même de se dire, ok, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Si j'ai envie de prendre ça et d'appeler ça une œuvre d'art, je peux. Si j'ai envie de me mettre sur scène et de... je sais pas, hier, ça criait, ça faisait des grimaces dans le spectacle qu'on a vu.
Et dans ce que tu as dit, il y a un truc que j'ai trouvé hyper juste, c'est que tu as employé hors du commun à un moment. Et l'art, ça permet, je trouve, de voir ou de vivre des choses qui sont hors du commun. Tu peux, pour vivre de l'hors du commun, tu peux faire un voyage incroyable et tout, mais tu peux aussi parfois voir un film ou lire un bouquin et trouver ça mais complètement incroyable. Et c'est fort, il y a peu de choses qui sont... ouais, il y a des œuvres qui peuvent être très fortes, qui peuvent agir sur toi comme des expériences très fortes alors que tu as juste, t'es juste allé au spectacle ou tu as juste lu un bouquin, quoi.
Que aussi, ça dépend des gens, de leur... de comment ils vivent, de leur expérience, en fait. Tu peux toucher des personnes comme tu peux être ridicule aux yeux des autres personnes. Et ça dépend du spectateur, voilà.
Pour compléter hyper rapidement par un exemple, et ça répond plutôt à la question que tu avais posée avant, moi, il y a des œuvres que j'ai vues et je considère très sincèrement que ça fait partie des expériences les plus mémorables et les plus fortes, quoi, de ma vie. Ouais, assez honnêtement en plus, c'est pas pour faire genre. Il y a vraiment des œuvres où c'était des moments incroyables, quoi, pour moi.
Ouais, moi je te rejoins vraiment là-dessus, et même c'est pas juste un moment dans la vie, j'ai l'impression, c'est aussi c'est une expérience qui peut des fois amener à juste changer complètement ta façon de voir les choses. Et ça, je trouve ça très intéressant, ce pouvoir-là pas forcément de façon permanente, mais de pouvoir pendant un petit moment, tu vois, et après de pouvoir le reconvoquer derrière si tu veux, d'adopter un point de vue ou un angle d'approche des choses qui est complètement différent de ce que tu pouvais avoir.
Et aussi, il y a le fait d'être toi un danseur et tu vois un spectacle de danse. Parfois, quand tu aimes le spectacle, tu as envie juste de... Ça te booste, en fait, ça te booste, ça te dit, allez, vas-y, tu dois améliorer, c'est toi, la prochaine fois, tu dois être dans cette pièce, ou voilà.
C'est un vecteur de motivation, quelque part aussi. Ok, super intéressant, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire? Là, vous êtes libre de dire tout ce que vous souhaitez. Quand je dis mot, ça peut être une phrase, hein, même un peu plus qu'une phrase d'ailleurs.
Bon, bah, j'en passe sur la question d'avant. Non, mais par rapport au couple sur la culture, encore une fois, du coup, faut spéculer. De toute façon, c'est le travail de la politique, c'est spéculer sur ce que les gens veulent. Et ouais, comme je disais à titre personnel, je pense que moi, en tout cas, l'art me fait beaucoup de bien. Et donc, je suppose donc que l'art a ce pouvoir de faire vivre des moments chouettes aux gens. Et... Ouais, non, mais c'est... Enfin, que du coup, c'est bête, quoi, de retirer ça. Je trouve ça bête.
Déjà, si vous voulez signer les tribunes et les pétitions que partage le CNDC.
Oui, le CNDC et plein d'autres, ces coupes dont on parlait, elles ne sont pas encore faites. Et il est tout à fait encore temps de se mobiliser de toutes les façons dont il est possible de se mobiliser pour faire arrêter ça.
Parce que ça permet qu'il y ait du budget, qu'il y ait de l'argent pour financer tout ça, ça permet aussi de rendre plus accessible la culture et que tout le monde puisse se l'approprier, parce que c'est pas quelque chose qui devrait être élitiste. Et... Enfin, ça, moi, c'est une valeur qui est très importante pour moi, le fait que ça doit vraiment être accessible.
Et ça l'est, quand je vois tous les dispositifs, moi je trouve qu'on a un chouette... Là, on est sur Angers, il y a des opportunités de voir des belles choses au cinéma, c'est pas très cher, le théâtre non plus, ok, il y a une belle programmation, et c'est super, ça, c'est dommage que ça soit en danger, parce que c'est vraiment super.
Et même juste notre formation, tout ce qui est mis en œuvre juste pour 20 personnes, c'est vraiment assez incroyable.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Merci.